c'est beaucoup mieux.
Alors, bon matin à vous tous. Et merci Steve et son équipe pour ces beaux chants de louange. Alors ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles et on va retrouver le livre de Néhémie, chapitre 7. Néhémie, chapitre 7. Et avant de faire la lecture de quelques versets, il y a 73, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de lire les 73 versets. J'aimerais juste vous mettre ce chapitre 7 dans son contexte. Alors, Néhémie chapitre 7 est une transition entre la reconstruction des murailles de Jérusalem face à l'opposition que nous avons vu dans les chapitres 1 à 6, et la restauration, la reconstruction maintenant spirituelle du peuple que nous allons voir dans les chapitres 8 à 13. Et il serait très naïf de penser que la reconstruction des murailles de la ville conduirait à une vraie restauration du peuple. Il y avait déjà eu un temps quand les murailles étaient debout, intacte, mais à l'intérieur, il y avait le mal, il y avait le péché, et cela, justement, a provoqué Dieu à renverser ces murailles. Alors, le peuple doit absolument rejeter l'idée que tout va être beau maintenant, qu'ils sont de retour à Jérusalem, les murailles sont rebâties, il y a une belle ville, bien shiny, comme on dit en anglais, là, puis que tout va aller bien. Ça, c'est tout à fait faux. Et vous savez, la même chose aussi peut s'appliquer à l'église locale aujourd'hui. Une église pourrait avoir la plus belle bâtisse. Il y en a de très, très belles de nos jours. Et ne me méprenez pas, je ne suis pas contre une belle bâtisse. Mais une belle bâtisse en elle-même ne conduit pas à une église en santé. Une belle bâtisse n'est pas l'antidote pour ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'église, des querelles, des disputes, des divisions. L'idée magistrale de Dieu, ce n'est pas seulement de nous sauver pour nous amener à notre Jérusalem céleste, c'est aussi de nous construire et même de nous reconstruire pour que nous puissions ressembler de plus en plus à son Fils, ici-bas sur la terre, et que nous puissions tous avoir ce témoignage, individuellement et comme église locale, le même témoignage que Jésus-Christ avait quand il était sur la terre. Il a pu dire à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et c'est pourquoi Dieu bâtit et rebâtit justement à son église. Alors Dieu a un plan pour Israël, un plan pour Jérusalem. Et nous avons un très beau texte qui m'a fait du bien, qui m'encourage. Dans Psaume 147 au verset 2, pas besoin de l'y tourner. Mais le texte dit, l'Éternel rebâtit Jérusalem. Et si Dieu est capable de faire ça pour Jérusalem, c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable aussi de rebâtir l'église de Cap-la-Madeleine. Et Dieu va rebâtir Jérusalem principalement pour trois raisons. Tout d'abord, pour que cette ville redevienne ce qu'elle devrait être, une ville sainte. La ville du Dieu d'Israël, le centre d'adoration pour le peuple juif. Et je vais vous donner quelques textes qui vont vous démontrer maintenant l'importance de Jérusalem aux yeux de Dieu. Pas besoin d'y tourner, mais dans 2 Chroniques 6, Dieu va dire ceci, « J'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside. » Et dans Psaume 87, au verset 2, nous lisons ceci, « L'Éternel aime les portes de Sion. » Notre mot pour Jérusalem. « Plus que toutes les demeures de Jacob, des choses merveilleuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. » Alors ça, c'est sa ville, là. Qu'il avait choisi dans le temps. Deuxièmement, Dieu aussi veut que son peuple redevienne ce qu'il devrait être. C'est pourquoi il va rebâtir Jérusalem. Pour que le peuple maintenant d'Israël redevienne ce qu'elle devrait être, une nation d'adorateurs. Et Psaume 95, au verset 6, le psalmiste va dire ceci: « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, nous sommes son peuple de son pâturage. » Alors ça aussi, c'est le plan de Dieu pour Israël. Il va le rebâtir pour ce qu'ils peuvent redevenir une nation d'adorateurs. Et troisièmement, il va rebâtir Israël parce que Israël devrait témoigner son nom aux nations. Psaume 105, 1 va dire ceci: « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Et Dieu va rebâtir la nation pour cela. Ça, c'est le but de Dieu pour Israël. Mais vous savez aussi, Dieu aura le même but pour nous en tant que l'Église. Nous avons ce texte dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, qui nous dit ceci. Il parle, Pierre parle à l'Église: « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, l'adoration agréable à Dieu par Jésus-Christ. » Dieu veut que son Église aussi soit une nation d'adorateurs. Et au verset 9, même texte, il va dire ceci: « Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ça aussi, c'était le but. C'est le but aussi pour l'Église, un témoignage. Deux grands sujets, l'adoration et le témoignage, mais les deux sont importants parce qu'il faut garder l'équilibre. On ne va pas rester ici entre nous, puis alléluia, gloire au Seigneur, puis un monde qui périt à l'extérieur. Là, il y a un équilibre à chercher. Mais dans le contexte de Néhémie 7 ce matin, je veux focaliser justement, comme je dis, c'est un chapitre de préparation. Le peuple va être restauré pour adorer, aussi pour annoncer. Et j'aimerais focaliser plutôt sur le sujet de l'adoration. Et savez-vous que l'adoration est très importante aux yeux de Dieu? Notre Bible contient 66 livres, le plus volumineux parmi ces 60 livres, c'est le livre des psaumes, 150 chapitres. Et quel est le thème principal des psaumes? C'est la louange et l'adoration de Dieu. Au moment où est-ce que je parle, nous sommes ici, mais au ciel, devant le trône de Dieu, il y a des myriades et des myriades d'anges qui ne cessent jour et nuit, continuellement, dans l'adoration devant Dieu. Ça va être notre occupation principale pendant toute l'éternité. Il y a des gens qui vont dire, mais ça va être plate. Je peux vous dire, écoute, Dieu là, qui a créé les cieux, la terre, Dieu qui est tellement sage, on va triper. Je ne sais pas exactement ce qu'il nous réserve, là, mais je vous dis qu'il y a quelque chose d'extrêmement important et on va avoir du plaisir pour toute l'éternité. J'ai hâte. Et le dernier chapitre de notre Bible contient cette exhortation: adore Dieu. Alors, on peut adorer Dieu n'importe où, n'importe quand, dans tout ce que nous faisons, si nous le faisons pour sa gloire. Mais ce matin, on parle de l'adoration quand l'Église est rassemblée, l'adoration collective. Et quelle place occupe-t-elle dans nos vies? Quelle place occupe-t-elle dans nos églises, notre Église? Est-ce que le Cap d'Amalène est connu pour être une Église d'adorateurs? Et plus personnellement, quand nous sommes rassemblés en Église, dans la collectivité, quelle contribution apportez-vous pour que Dieu reçoive la louange et l'adoration qui lui sont dues? Vous savez, les réponses à ces questions vont dépendre de l'importance que nous accordons à l'adoration. Alors, le message ce matin s'intitule « L'importance d'une adoration pieuse ». Et on va lire Néhémie chapitre 7, quelques textes choisis, justement pour nous mettre dans le contexte. Alors, on va commencer au verset 1. « Lorsque la muraille fut rebâtie et lorsque et que j'ai posé les battants des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple, pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revint de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amenés captifs, et qui retournèrent à Jérusalem, en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Ramamia, Nacham, Mani, Mardoché, Bilshan, Misperet, Bigvaï, Nehum, Bana. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréoch, 2172. Verset 39, sacrificateur, les fils de Jedaja, de la maison de Josué. Verset 43, Lévite, les fils de Josué de Cadmiel. 44, des chantres, les fils d'Asaph. 45, portiers, les fils de Shalom. 46, Nétiniens, les fils de Tchitcha. 57, fils des serviteurs de Salomon. 61, voici ceux qui partaient de Tel Melach, de Tel Archa, de Kérub Adon et d'Imain, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, etc. 63, et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilei, qui avaient pris pour femme une des fils de Barzilei, le Galaïdite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Verset 66, l'assemblée tout entière était de 42 360 personnes. 70, plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 dariques d'or, 50 coupes, etc. Les versets 71, les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 dariques d'or, etc. 72, le reste du peuple donna 20 000 dariques d'or, 2000 mines, etc. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Et le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Notre texte pour ce matin, le thème principal de ce chapitre, c'est rebâtir les structures, est une étape importante dans la préparation du peuple pour un réveil, et ce réveil lui permettra d'accomplir le but ultime de l'existence qui est l'adoration. Et ce matin avec vous, j'aimerais regarder trois préparatifs qui reflètent l'importance d'une adoration pieuse dans la collectivité. Ça veut dire quand nous sommes ensemble. Et dans un premier temps, l'importance de l'adoration collective est reflétée dans ce chapitre-là, Néhémie chapitre 7, dans les efforts pour assurer la protection de Jérusalem, pour assurer la protection de Jérusalem qui vise justement la sécurité du peuple. Et si vous regardez votre texte encore au verset premier, on lit ceci, lorsque la muraille fut rebâtie, etc., on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. C'était trois groupes de personnes, tous de la tribu de Lévi, la tribu qui était associée avec la louange et l'adoration de Dieu. Et vous avez les portiers qui gardaient les portes de la maison de Dieu, le temple. Vous aviez des chantres qui étaient comme Steve et les autres, des habiles musiciens des groupes de louanges qui conduisaient le peuple dans la louange et l'adoration. Et vous avez bien sûr les Lévites qui étaient des hommes chargés de plusieurs fonctions, mais entre autres, ils enseignaient le peuple la parole de Dieu. Et là, Néhémie commence là où est-ce qu'il faut, il faut commencer. Il va les rétablir dans leur fonction. Il va ramener le peuple, il va pointer le peuple dans la bonne direction, le pourquoi de l'existence de Jérusalem, le pourquoi de leur retour, le pourquoi de la reconstruction du temple et maintenant des murailles, c'est de faire de Jérusalem un centre de louange et d'adoration de Dieu. Vous allez voir que dans les chapitres 8 à 13, les chantres et les lévites vont être très impliqués justement dans la restauration du peuple. Alors il va les sécuriser. Et en les mettant en place, le peuple maintenant peut voir où est-ce qu'ils s'en vont. Et ça va répondre justement à des questions. Ils ont une raison d'être. Pourquoi ils sont là à Jérusalem? Qu'est-ce qu'on fait ici? Où est-ce qu'on s'en va? Mais en les remettant en place, il va justement dans une direction à ce peuple. Ça va les sécuriser. Et non seulement il va faire cela, il va aussi sécuriser le peuple. Il établit justement ses serviteurs, mais il va aussi établir des sentinelles. À quoi bon avoir une belle ville, des belles murailles, et l'ennemi qui peut rentrer facilement, pénétrer à l'intérieur pour faire des ravages? Il faut que Jérusalem aussi soit aussi sécuritaire sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et là, Néhémie va élaborer un plan pour minimiser une attaque surprise. Il va dire que les portes de Jérusalem, vous allez les ouvrir seulement en plein jour. D'habitude, on les ouvrait les portes à l'aube, où quand le soleil commençait à se lever, on ouvrait les portes pour laisser entrer le monde. Mais il a dit non, on va attendre. On va attendre que tout le monde soit debout. En plein jour, là, on va ouvrir les portes. Alors, si l'ennemi, justement, veut venir, mais il va faire face, justement, à plus de monde. Et il va aussi mettre une garde là, pour aussi garder les murailles la nuit. Et là, il va choisir deux hommes. Anani et Anania, et le texte dit, justement, d'Anania, c'était un homme supérieur en grand nombre. Par quoi? Son intelligence? Non. Par ses dons et ses capacités? Non. C'est un homme qui était supérieur au grand nombre à cause de sa fidélité et de sa crainte de Dieu. Et c'est pourquoi ces caractéristiques-là, le qualifier pour remplir un poste qui était si important, la surveillance, la sécurité justement de la vie de Jérusalem, sa fidélité et sa crainte de Dieu. Et Ananias était l'un de qu'on appelle une espèce rare qui pouvait répondre présent. Il y a un texte dans Proverbe 26 qui dit ceci: beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Je vais vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, il y avait un homme fidèle, un homme qui avait la crainte de Dieu, un homme alors qualifié justement pour surveiller la sécurité de Jérusalem. Et parce qu'il était fidèle et parce qu'il était imbu justement de la crainte de Dieu, le contrat pour assurer la sécurité de Jérusalem et ainsi la sécurité du peuple était entre de bonnes mains. Jérusalem va retrouver justement sa place, ça va être une ville attirante où est-ce que le peuple peut maintenant affluer et adorer Dieu sans crainte. Et je veux faire une application ici tout de suite. Vous savez que Dieu a établi aussi des sentinelles sur son Église. Dans Actes chapitre 20, 28, Paul il va parler aux anciens de l'Église. Il va leur dire ceci: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Quoi? Évêque. C'est le même mot, surveillant. L'Église a besoin justement de surveillants. Et comme Anani et Anania, ces hommes, ces surveillants que Dieu établit sur son Église, devrait briller non pas autant pour le don et la capacité, mais à cause et avant tout à cause de leur caractère. Vous avez les textes et les qualifications dans 1 Timothée chapitre 3 et dans Tite chapitre 1. L'apte à enseigner vient tout en dernier. Mais le reste, c'est tout le caractère de ces hommes fidèles que Dieu a établi comme surveillants sur son église. Et vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que cela a à faire avec l'adoration? C'est quoi le rapport, comme nos ados disent? C'est quoi le rapport entre ça et aussi l'adoration? On n'est pas en danger. J'aimerais vous répondre, oh que oui. Saviez-vous qu'il y a un autre aussi qui désire notre adoration? C'est le diable. Quand il a tenté Jésus dans Matthieu chapitre 4, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui montrer les royaumes du monde et leur gloire. Il va leur dire, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et pendant la grande tribulation, Satan va mettre son homme en avant, l'antichrist qu'on appelle. Et cet homme, il ne cherche pas tellement le pouvoir ni les richesses. Il cherche une chose, l'adoration. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 2:4, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Et quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, vous allez voir que tous les habitants de la terre, dont leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent justement l'Antichrist. Alors, Satan est aussi à l'œuvre aujourd'hui pour saboter l'adoration dans l'Église. Et comment est-ce qu'il fait cela? Deux choses, deux façons. Nous devrions adorer Dieu en esprit et avec vérité ou en vérité. Et une des tactiques de Satan, c'est de faire croire, c'est de corrompre la vérité de Dieu. Et si la vérité est corrompue, mais là, l'adoration prend une débâcle. Et c'est exactement ce que Paul va dire dans à ses surveillants dans Actes chapitre 20. Il dit, il y a un danger de l'extérieur, des loups cruels qui vont s'infiltrer dans l'église, des faux docteurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont semer justement la fausse doctrine. Et de l'intérieur aussi, il va se lever parmi vous des hommes qui vont enseigner, mais encore des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et l'exhortation de Paul, c'est quoi? Veiller. Veillez sur le troupeau de Dieu, parce que montrez-moi une église qui a justement endossé la fausse doctrine, et je vous montrerai une église où l'adoration a été compromise. Très important. Mais ce n'est pas seulement ça que Satan fait. Ça, c'est sur le plan collectif. Savez-vous aussi qu'il y a plus qu'un truc dans son sac? Ce Satan-là. Parce qu'aussi, il nous attaque sur le plan individuel. Le texte nous dit qu'il y avait aussi avec Anani et Anania, il dit, des habitants de Jérusalem qui feront la garde, quoi, chacun à son poste devant sa maison. Alors, les habitants aussi de la ville étaient impliqués dans la surveillance pour garder la ville. Et ce matin, vous et moi, nous avons la responsabilité de surveiller les murailles de nos cœurs pour que l'ennemi, le monde, la chair et le diable ne s'infiltrent pas justement et saboter justement l'adoration que nous devrions donner à Dieu. Que dit Proverbe 4, 23? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Une des tactiques de Satan, je peux vous dire ceci. Nous vivons dans un monde déchu. Et tôt ou tard, on va vivre une expérience difficile. Perte d'un emploi, peut-être. Perte d'un être cher. On va passer peut-être par la maladie. Et une des ruses de l'ennemi, c'est de dire crois. Comme il a dit à Job, à travers la femme de Job, qui doutent de la bonté de Dieu dans de telles circonstances, maudit Dieu et mal. Et certains aimeraient justement qu'on prenne cette attitude dans les circonstances difficiles, saboter justement l'adoration qu'on devrait donner à Dieu, être comme les enfants d'Israël, ces mêmes enfants d'Israël qui, amenés en captivité, le texte nous dit, ils étaient assis sur les bancs des fleuves de Babylone. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient suspendu leur harpe. Ils ne chantaient plus. J'aimerais vous encourager ce matin avec un texte dans Psaume 43, 4. Le psalmiste est dans la souffrance. Mais au lieu d'écouter Satan, qui est en train de l'accuser pour dire « Dieu n'est pas bon !» et justement couper l'adoration qui dure à Dieu, il va dire ceci, « J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, je te célébrerai sur la harpe, ô mon Dieu !» Là, il parle à lui-même. Il dit, « Mon âme, pourquoi t'abattu et gémis-tu en dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Voilà la réponse à Satan. Tu vas enlever mon adoration, mais écoute, la parole de Dieu me dit que mon Dieu est bon, j'espère en lui et je vais le louer encore. Ce matin, je vous pose une question, vous voulez adorer Dieu? Restez attaché à la parole. Deuxièmement, l'importance de une adoration collective dans Néhémie 7 est vue dans la protection de Jérusalem, oui, pour la sécurité du peuple, mais deuxièmement, dans les efforts pour assurer la pureté de Jérusalem. La pureté de Jérusalem, et cela vise la sanctification du peuple. La nation d'Israël appartenait à Dieu. Combien de fois Dieu disait à cette nation, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, vous êtes mon peuple, soyez saints, car je suis saint. » Et si vous gardez votre texte au verset 5, Néhémie va dire ceci, « Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement, et je trouvai un registre généalogique. » Et cet exercice-là qu'il voulait faire Néhémie, là, c'était plus que juste mettre tout le monde ensemble, là, puis juste compter des têtes, là, puis on dit, « Ah, tiens, on est autant de monde. » Il y avait un autre but pour cela. Le but, c'était d'identifier le peuple, et comme nous avons vu tantôt, on a lu le texte, qui étaient des sacrificateurs, qui étaient des chantres, qui étaient des Néthiniens, des fils de serviteurs. Ils voulaient justement classer le peuple. Sa vision que c'est cette nation redevienne la nation qu'elle devrait être, une race, une nation d'adorateurs. Il est très important de savoir qu'au milieu de cette nation, qui était le vrai Israël. Et ça, c'est le but justement de ce dénombrement. Et remarquez bien, il a dit, « Mon Dieu m'a mis au camp. » Ce n'était pas Néhémie qui avait cette idée. Dieu s'en va dans une direction, il amène, il restaure ce peuple pour qu'il puisse redevenir un peuple d'adorateurs. Et Dieu dit, « Je veux savoir, Néhémie, je veux que tu saches qui parmi vous sont de vrais adorateurs. Qui est le vrai Israël ici, dans cette ville? » Et ça nous montre que, justement, que le Dieu d'Israël s'attend à être adoré par le vrai Israël. Mais ça va ensemble. Seulement le vrai Israël peut adorer Israël. Et c'est rassurant que, ici, dans ce texte-là, de savoir que Dieu savait qui était de son peuple. Il nous a laissé ici, justement, une liste de personnes. C'est la même liste aussi qu'on a dans Ésaïe chapitre 2, les noms de ceux qui étaient d'Israël. Et en revanche aussi, ils vont identifier, comme nous avons lu, ceux qui ont cherché le titre, ils ne les ont pas trouvés. L'adoration commence avec les vrais adorateurs. Et réfléchissant, j'ai un peu de difficulté avec les églises. Des fois, vous passez devant les églises, plutôt au sud, aux États-Unis, et là, vous avez tous des programmes, leurs annonces et ainsi de suite. Et là, en bas, vous dites, « Venez adorer avec nous. » une invitation à monsieur tout le, madame tout le monde. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que c'est seulement les vrais adorateurs de Dieu qui peuvent adorer Dieu. Il y a un texte dans 2 Timothée 2:19, c'est écrit ceci: le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ici, dans ce texte, il connaissait ce qui était le vrai Israël. Mais il y avait aussi une autre chose. Le pedigree était important, mais même à l'intérieur des vrais adorateurs, la pureté aussi est importante. Et si vous regardez au verset 63 au 65, il y a trois classes de sacrificateurs: des fils de Obaja, les fils d'Akot et les fils de Barzilaï. Ils vont chercher le titre généalogique et ils ne les trouvèrent point, on les exclut du sacerdoce. Et c'est très intéressant ici dans le texte original. Le mot hébreu veut dire souiller, se souiller, profane, impur, pollué. La Bible en français courant va nous dire ceci: on les considéra comme étant impurs et on leur interdit d'exercer un ministère de prêtre. Très important. Même parmi le vrai Israël, ceux qui s'approcheraient de Dieu, ceux qui voulaient exercer un ministère quelconque, la pureté était une obligation et non pas une option. Juste rapidement, deux textes, psaume 24: qui pourra monter à la montagne d'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur qui est pur. 1 Timothée 2:8 nous dit ceci, Paul exhorte les hommes de prier en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère et ni mauvaise pensée. Et combien c'est important, quand on parle de l'adoration collective, dans la collectivité, cette notion de pureté. Dans le domaine physique, naturel, un membre de mon camp, de votre camp, qui est malade et qui n'est pas soigné, pourrait graduellement détruire les fonctions vitales du corps entier. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Un membre malade aura un impact néfaste sur la santé spirituelle de l'Église. Un Achan, ici, dans le milieu de nous, pourrait causer de graves problèmes pour nous tous. Une infectée, quelqu'un qui est infecté par l'amertume, par exemple, finira tôt ou tard à infecter les autres. Une église qui est malade ne pourrait pas devenir ce qu'elle devrait être, une église qui adore Dieu. Alors que faire? Je ne vous demande pas, premièrement, de regarder le voisin pour voir si l'assemblée est pure. 1 Corinthiens 11:28, et je parle à moi-même aussi, dit ceci: que chacun s'éprouve quoi? Soi-même. Si on veut que les louanges de notre Seigneur retentissent de ce lieu, soyons de ceux qui se purifient. On n'est pas parfait, mais le Seigneur nous a donné justement une méthode, une manière de se purifier. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pourquoi? Pour nous purifier de toute iniquité. Et une fois que nous sommes en train de faire cet exercice, justement, journalièrement, nous pouvons alors veillons les uns et les autres afin de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et c'est encourageant parce que le Seigneur lui-même aussi est impliqué dans cette œuvre de purification. Je vous lis un texte dans Titre 2:14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de quoi? De toute iniquité, et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Et merci Seigneur pour son Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui nous convainc justement du péché et qui nous dit quand il faut confesser cela et rester pur devant le Seigneur. Alors, vous voulez adorer Dieu, gardez votre cœur pur. Et finalement, je termine avec ceci, je vois le temps passe. Troisièmement, dans ce texte, l'importance de l'adoration collective est vue dans la priorité accordée à Jérusalem, et cela est démontré par les sacrifices du peuple. Au verset 70, ce texte nous dit ceci, « Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. » Et on pourrait se poser la question, mais quelle œuvre? Ils sont à Jérusalem, les murailles sont rebâties, de quoi est-ce qu'on parle? Mais le registre généalogique qu'il avait trouvé, c'était avant, ça remontait à 100 ans quand le peuple revenait sous Zorobabel. Ils arrivent là, ils n'ont rien. Il faut rebâtir le temple, justement. Et nous avons le même texte dans Esdras qui nous dit ceci. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens. Et ça, c'est tout à fait... c'est un beau geste. C'est les gens qui reviennent d'exil. C'est les gens qui ont sans doute justement des inquiétudes, des préoccupations. Il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils retrouvent leur ville, il faut qu'ils reconstruisent des maisons, déchiffrent des terrains, ensemencent justement les terres. Tout cela, là, ils reviennent d'exil après 70 ans. Et qu'est-ce qu'ils font? À leur arrivée à Jérusalem, ils sont fidèles à leur mission. La raison pour laquelle ils avaient quitté Babylone en premier, c'était de rebâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Cyrus, le roi de Perse, avait dit ceci, « Qui d'entre vous et de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qui monte à Jérusalem en Juda, qui bâtisse la maison de l'Éternel, de Dieu d'Israël. » Ça, c'était leur mission. Et même avant de faire quoi que ce soit, ils vont mettre la maison de Dieu de façon prioritaire. Ils vont s'occuper justement des choses de Dieu. Et nous avons ici de beaux exemples. Le gouverneur, il va donner. Le chef de famille donne. Le reste du peuple aussi va donner. Et remarquez bien aussi, ils vont donner tous volontairement. Quelle belle attitude du cœur. Et le texte nous dit aussi, ils ont donné selon leurs moyens. Il y a ceux qui ont donné plus. Et ceux qui en donnaient moins, mais ils ont donné. Et quand quelqu'un a dit, quand une chose est une priorité pour nous, on trouve des moyens pour s'y investir, même si cela implique des sacrifices. Alors, pour les enfants d'Israël, rebâtir la maison de Dieu à Jérusalem était prioritaire, un endroit pour louer et adorer Dieu. Ils vont faire des sacrifices. Et vous savez que Dieu n'est débiteur de personne. Si vous regardez votre texte au verset 70, ils vont mettre 73 plutôt, ils vont mettre Dieu en premier. Qu'est-ce que le texte nous dit? Tout le peuple est de retour, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, et qu'est-ce qui arrive? Ils sont bien établis. Bien établis dans leur vie. Ils ont mis Dieu en premier et Dieu a aplani leur sentier. Et là, après avoir contribué pour la maison de Dieu, Dieu permet que les choses aillent sur les roulettes, et là, ils sont de retour, ils sont dans leur vie. Comment que Dieu est bon. Et juste faire une application, deux applications ici pour terminer. Nous avons un beau projet devant nous. Frères et sœurs, rebâtir notre église locale matériellement à 225 Loupien. Pour avoir un endroit où collectivement nous pouvons nous rassembler pour louer et adorer notre Dieu. La question qu'il faut se poser, est-ce que ce projet est prioritaire pour nous? Sommes-nous prêts à y investir, faire des sacrifices, que ce soit de notre temps, de notre argent, ou s'y investir de toute autre manière? Et j'aimerais vous inviter à mettre cela devant le Seigneur. Quelle sera votre participation dans cette œuvre qui nous attend là-bas à 225? Et que ce soit aussi de façon volontaire comme ces Juifs qui ont donné volontairement de bon cœur, et que ce soit aussi comme un acte d'adoration envers le Seigneur. Et vous voulez adorer Dieu, mais faites de l'adoration une priorité. Et juste une application pour ce, peut-être parmi nous ce matin, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous vous sentez interpellé par ce message. Vous aimeriez peut-être louer, adorer Dieu, mais vous savez qu'au plus profond de votre cœur, vous n'êtes pas un vrai adorateur. Si Dieu ce matin consulterait son registre, parce qu'il y en a un au ciel aussi, un livre de vie, est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Vous savez, si votre nom n'y se trouve pas, au jour du jugement, Dieu serait obligé de vous exclure. Comme ces sacrificateurs qui n'ont pas pu trouver justement le titre, ils ont été exclus. Dieu serait obligé de vous exclure de son royaume pour passer l'éternité loin de sa présence en enfer. Mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Hein? Dieu peut aujourd'hui vous faire partie de son peuple et d'avoir une place spécialement réservée pour vous dans la cité céleste, dans la nouvelle Jérusalem. Et ça, c'était pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Jésus-Christ, en venant sur la terre, nous sommes dans nos péchés, le salaire du péché est la mort, mais Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et par un seul acte de repentance, ou comme ce publicain qui a dit, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur », en se frappant sur la poitrine, Dieu vous pardonnerait vos péchés, vous purifierez aussi, et fera de vous son enfant. Vous savez, un beau texte, je laisse avec ceci, Psaume 145. Une fois purifié, une fois sauvé, une fois en route vers le ciel, comme on chante, vous voulez marcher vers le ciel, voulez-vous venir? Être un vrai adorateur de Dieu, le psalmiste va dire ceci, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. » Et en faisant cela, en prenant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous allez accomplir le but pour lequel Dieu vous a créé. De louanger et l'adorer. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour ta personne aussi, ce Dieu d'amour, ce Dieu saint, ce Dieu qui nous a vus dans notre misère et qui est venu à notre secours dans la personne de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour sa mort sur la croix. Merci que la vie éternelle se trouve en lui. La prière ce matin, Seigneur, s'il y a parmi nous quelques-uns qui ne te connaissent pas, que tu puisses te révéler à ces personnes et que tu puisses leur ouvrir les yeux afin qu'ils puissent accepter ce beau don, le don gratuit, la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh Seigneur, tu veux un jour nous avoir auprès de toi, dans ta présence, en train de te louer et t'adorer. Alors fais de nous, Seigneur, un peuple d'adorateurs et nous demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.